Il faut absolument que vos arts, vos grands arts, vous puissiez les arriver à les traiter avec la familiarité que vous auriez avec un tuteur. Ce sont des tuteurs, tuteurs de vie. Saturne est un magistral tuteur, Jupiter en est un autre. Uranus et Neptune sont des grandioses tuteurs. À des moments, ils vous viennent en rêve. Ils se montrent à vous sous une forme ou une autre. Et simplement peut-être par des symboles, quelquefois uniquement par de la géométrie, quelquefois par une phrase métaphysique, de sagesse, quelquefois très pertinente et très personnelle, quelquefois par un avertissement solennel, quelquefois par une espèce de brusquerie, comme s'il voulait vous taper sur les doigts. Tout cela se fait tout le temps. Et ça, c'est en vertu de la balance. Ils vous aiment parce que vous êtes deux. Vous n'êtes pas avec eux, vous êtes deux. Et ils sont deux. C'est irréversible. C'est déjà le début, c'est déjà plus que le début de la cité divine. 13 âges d'une cité divine encore, Jérusalem céleste, de plus en plus grande. Voilà, passons. Revenons au transit. Encore deux ou trois choses à dire sur le transit. Le transit, donc, c'est le mouvement des planètes calculables dans le ciel à tout instant de la journée. Et c'est ce qu'il y a à notre disposition de plus collectif, car les transits représentent un mouvement de temps qui appartient réellement à tout le monde, à tout notre monde et à toutes nos sociétés humaines, aux plantes, aux minéraux, aux animaux, aux éléments, et ici nous intéresse cela. Le climat d'une époque n'est pas fait que par des transits, bien entendu. Il est fait par la somme des thèmes des gens qui sont nés à une certaine année et qui, en ce développement, créent le climat d'une époque. Mais si vous voulez avoir vraiment le ciel, est-ce qu'on dit la voix du ciel? Qu'est-ce que le ciel dit? Eh bien, la voix du ciel, c'est la voix du transit en ce moment même, ce soir. Tous les transits de ce soir, c'est la voix du ciel, mais c'est la voix du ciel pour tout le monde, à la fois. Ça s'adresse à toute l'humanité à la fois. C'est donc un unanimisme, et une unichronicité, si vous voulez, et c'est une spontanéité extraordinaire, et l'on peut presque dire que c'est la seule chose rigidement, rigoureusement spontanée dans toute l'énergétique dont s'occupe l'astrologie. S'il n'y avait pas de transit, il n'y aurait pas de conversation entre les hommes. Parce que le transit permet l'accord entre vous et moi, entre nous et l'Amérique, etc., etc. Le transit, parce qu'il est tellement collectif, qu'il permet et exige le collectif, il a exigé le langage qui permettra à l'individu de se relier au collectif. Derrière le verbe humain, et derrière les langues humaines, je suis certain qu'on tracerait toujours facilement cela à la réalité du transit. Parce que lui, il est à tout le monde. Assurément, vous me direz tout de suite, oui, mais enfin, tous les transits de ce soir sont les transits de tout le monde. C'est-à-dire, comment peut-il être de tout le monde, puisque ce sont les miens, et puis les tiens, et puis les siens, et puis les vôtres, jouant eux-mêmes entre eux, selon les qualités qu'elles ont dans le thème radical, jouant sur les planètes radicales qui sont nettement les vôtres, jouant sur vos progressions qui sont nettement les vôtres, comment donc est-ce que ces transits peuvent être à tout le monde? puisque dans chaque cas particulier, ils vont jouer sur les planètes radicales de chacun, et parce qu'elles vont animer les planètes radicales, en chacun va se manifester selon la formule d'incarnation qui lui est propre. En effet, on ne peut pas, dans un certain sens, dire que les transits sont à tout le monde et laisser la formule comme ça. Les transits sont à tout le monde dans le sens que c'est le même temps. Et là, de nouveau, le facteur de temps. Au même moment, en ce moment-ci, est Uranus direct depuis 48 heures. Bien depuis 48 heures, il est direct pour tout le monde. Seulement, c'est l'Uranus de chacun de nous. Seulement, d'autre part, il est direct pour chacun de nous depuis 48 heures. Donc, nous avons en commun le temps. Le verseur d'eau a commencé à verser il y a 48 heures. Pour chacun de nous, il a versé ce qui est propre à notre race humaine, à notre âme groupe. C'est l'âme groupe qui reprend le raisin en main d'une façon extrêmement vibrante. Il reprend la manœuvre sur l'incarnation. Uranus direct, c'est le Christ qui redescend sur la terre. Rétrograde, non. Il était tourné vers le ciel. Mais redirect, le voilà descendant sur la terre. Et il est prêt à aller aux enfers, à être crucifié jusqu'aux enfers. Ça, c'est la fonction spécifique d'Uranus. Il va se servir de Saturne, et Saturne lui montrera le chemin vers lequel il peut descendre jusqu'aux enfers du petit raisin que nous sommes dans le ciel. C'est la descente d'Uranus, par exemple, quand il est dans la naissance au Bélier, le Pluton est dans le Cancer, il doit descendre dans la quadrature de Pluton, coûte que coûte. Il est le fameux Parsival qui se bat avec le dragon avant d'atteindre le Graal. Bref, c'est ça. Et donc, je répète, le transit, il nous fait une chose en commun à tous, c'est que nous avons tous la même heure. C'est ça qui est extraordinaire. Chacun de nous regarde sa montre et il sait qu'à ce moment-là, l'heure qu'il voit, c'est l'heure que tout le monde peut voir, chacun à sa propre. C'est cette unité de temps pour la France, cette unité de temps pour le globe, c'est cette prise de conscience du temps à Greenwich, l'Angleterre, au zéro de longitude, pour le monde entier, que tout est calculé là-dessus. L'horaire de la circulation est calculé là-dessus. L'horaire du lever et du coucher de la personne est calculé là-dessus. L'horaire de naissance est calculé là-dessus. L'horaire de mort est calculé là-dessus. Que feriez-vous sans les horloges? Mais que feriez-vous si les horloges n'avaient pas un critère, un étalon de temps réel? Eh bien, les transits nous donnent le temps réel. Et quand ils nous ont donné ça, ils nous ont donné la chose qui les caractérise peut-être le plus par rapport à d'autres systèmes de périodicité dans l'horoscope. Est-ce que je me fais bien comprendre? Y a-t-il une remarque à ce sujet ici? Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Ça vous fait penser à quelque chose? Cette notion du transit? Oui. Et vous, quoi?
Dans les mêmes milieux, différemment, suivant la planète correspondante à chaque
fois. Oui.
C'est encore caractéristique, c'est qu'il joue dans le même signe pour nous. C'est encore une chose en commun.
La communauté des éléments. La communauté des éléments. Le transit permet la communauté. C'est la table à laquelle nous pouvons tous venir manger en même temps. Mais chacun y apporte sa propre assiette. Et ses propres couteaux et fourchettes. Une chose encore sur le transit. Deux choses sur le transit. Puisque l'unité de temps, c'est le cycle, et que les 360 degrés d'un cycle représentent les différents parts d'une unité de temps, que, par exemple, vous avez Mars au carré de Jupiter dans un thème, Mars devant Jupiter, Mars donc d'ex, dans le sens des signes des zodiaques, il est carré de Jupiter, eh bien, l'on peut dire tout de suite que Jupiter marque là un ascendant de temps, qui sera l'ascendant du temps jupitérien. Alors, exclusivement jupitérien, les cycles des planètes sont des unités de temps qui sont propres à chaque planète. Ce sont des unités distinctes les unes des autres, qui sont, si vous voulez, groupées. Alors, elles sont groupées et uniformisées vers le centre de la croix. Elles font partie d'une... Elles ont un intérêt général, mais c'est comme la montre qui est faite de différents mouvements de roues. C'est toute une série de mouvements de roues cachés dans l'intérieur de la boîte. Et alors, que vous ayez le cycle de Mars qui commence à 90 degrés du cycle de Jupiter, vous avez l'unité de temps martien qui commence maintenant à 90 degrés de l'unité du temps jupitérien. Et si vous voulez voir le rapport que ces deux unités ont l'un vis-à-vis de l'une vis-à-vis de l'autre, vous pouvez tout de suite vous dire que Mars commence son cycle au premier quart du cycle de Jupiter. C'est-à-dire qu'il est là comme s'il disait, il était une aiguille de l'horloge jupitérienne dans laquelle il s'est dit, il marque, il est déjà en avance sur le cycle par le quart du cadran. Comment ? Ce n'est pas seulement le quart du cadran, parce que si Jupiter est venu à la place de Mars, alors nous dirions Jupiter a fait le quart de son cycle, et il lui reste encore les trois quarts de son cycle pour boucler ces fameuses 12 années. On ne peut pas dire ça exactement de Mars, puisque Mars doit faire son cycle en 2 ans. Mars reviendra à sa position en 2 ans, et il faudra 6 cycles de Mars pour que Jupiter revienne à sa propre position radicale. 6 cycles de Mars, 6 unités de temps martien pour 1 unité de temps jupitérien. Je dis ça en passant. Dans les problèmes de la vie que nous révèle le thème, c'est les disproportions dans les cycles de temps, qui sont dues par exemple à des oppositions dans les astres, à des quadratures et surtout des oppositions. Les oppositions marquent une disjonction des cycles de temps. C'est peut-être la chose la plus réellement sérieuse, disons même grave, dans l'opposition. C'est une disjonction très nette dans les cycles de temps. Nous allons y venir dans un instant lorsque nous parlons de l'opposition. Le transit est une force plus grande de la planète que celle de la planète radicale. Vous progressez. Il est rapide, et c'est pour ça que son effet ne semble pas être de grande importance. Mais il est colossal. Et en tout cas, sa puissance propre est d'être plus grande que la planète transite. La planète radicale qu'il transite, qu'il conjoint. Et quand il conjointe une planète radicale, ce n'est pas lui qui influence la planète radicale. Attention, l'énergie ici sort de la radicale et elle va vers le transit. Le transit, c'est déjà le devenir. La radicale, c'est le passé. Le transit assure la marche du passé vers l'avenir. Le transit, c'est le présent. La radicale, c'est le passé.
Et maintenant, grâce au transit, il passe, la radicale s'allonge dans le présent. C'est grâce au transit que les planètes radicales s'allongent dans le présent. Sans le transit, ce serait impossible. Ce soir, ici, présent, nous sommes en vertu avant toute chose de nos transits. Selon l'image spécifique de la lunaison de ce mois d'avril prise pour Paris, que vous étiez tous à Paris au moment de la lunaison d'avril. Vous n'avez qu'à dresser le thème de cette lunaison, vous êtes ici en fonction d'un certain jour de la lunaison d'avril. Ce sont là tous vos transits à vous, et ces transits à vous disent à vos planètes radicales: mes grands et chers petits amis, venez à moi, je vous offre la journée du 29 avril 1960. Je vous l'offre. Nous sommes là pour que vous soyez là avec nous à la table du 29 avril. Voilà le transit. Nous sommes ce soir rigoureusement notre transit de ce soir. Il nous permet de communiquer les uns avec les autres parce qu'il est simultanément pour tous dans les mêmes degrés et dans les mêmes éléments. Mais ce qui vient ici dans vous, ce sont nos projections et c'est surtout nos radicales. C'est tout notre thème natal qui s'ouvre et qui fait une présence au 29 avril 1960. C'est le tapis qui se déroule. Vous ne pouvez pas aller plus vite que vos transits. Ah, ça, non, par exemple. Vous ne pouvez pas aller plus vite que vos transits. Vous ne pouvez pas forcer les étapes. Vous ne pouvez pas forcer le temps. Vous ne pouvez pas forcer Saturne. Saturne a réglementé les raisons profondes pourquoi le Mars est un cycle en 2 ans et Jupiter en 12. Et lui-même, Saturne en 20. Là-dessus, je tâcherai de revenir dimanche sur le site de Saturne. C'est Saturne aussi qui a eu un mot très énorme à dire sur le cycle de la Lune et sur la rotation de la Terre et sur le fait que la Terre tournera autour du Soleil en 365 jours, 6 heures et quelques minutes. Saturne a son mot à dire pour tout ce qui est de chronométrer le temps. Et comment on peut chronométrer le temps que par les cycles? C'est lui qui a établi le rayon de chaque et le diamètre de chaque cycle. Mais je reviens encore une dernière fois sur une notion fondamentale. La planète qui conjoint un astre, par exemple en ce moment-ci, dans beaucoup de vos thèmes, vous avez Uranus dans le lion direct à 16 quelque chose du lion qui dans quelques jours va venir à la conjonction de votre Neptune radical dans le lion. N'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe dans plusieurs thèmes. Très bien, des jeunes. Eh bien, c'est un moment extraordinairement important dans votre existence, dont les conséquences vont être énormes dans les mois et les années qui suivent. Et cette notion d'année va m'entraîner à une finale considération sur le transit. Mais c'est une chose énorme, parce que cet Uranus transitant votre Neptune, vous allez dire peut-être qu'il va influencer ce Neptune. Il va venir du ciel. Et qu'il va influencer votre vie, qui va lui apporter quelque chose. Eh bien non, Uranus n'apportera rien à qui est plus grand que lui-même. Il n'apportera rien à qui est plus grand que lui-même. Il va simplement ouvrir la porte de Neptune et dire à Neptune: moi voici présent, général. Le régiment est à vos ordres. Je suis le colonel, il est à vos ordres. Présent, général. Et le général sécrétera et dira à Uranus exactement maintenant ce que lui a comme projet. C'est Neptune qui parle à l'Uranus. Il parle à l'Uranus. De sorte qu'à ce moment-là, ce que vous voyez dans le thème radical, c'est une libération de la maison que commande Neptune. Ce Neptune 17 du lion, eh bien, vous avez dans votre thème radical, c'est le Neptune radical. Le Neptune radical commande le poisson, et le moment où Uranus transitera votre Neptune, vous verrez subitement aussi que la maison de Neptune va, non seulement la maison où il est, mais la maison qu'il commande, va connaître ses pousses et tremblements, va connaître une nouvelle vie. C'était une vie qui était dans le Neptune, et qui ne pouvait pas sortir avant qu'Uranus lui ait dit « Tout est achevé jusqu'à présent, maintenant à votre tour. » Maintenant à votre tour. La planète contient les choses en potentiel, en puissance, jusqu'au moment où le transit annonce que l'heure d'actualiser et de jeter ce potentiel sur la table de la vie est arrivé. Donc, une conjonction, un transit sur une planète radicale, c'est un moment du métronome de Saturne, quelque chose de formidable. C'est l'annonce de quelque chose d'énorme en proportion de la grandeur des astres en cause et des maisons dans lesquelles elles se trouvent. Ainsi, l'Uranus transite un peu après le Neptune progresser, et cela il le fera un peu après si vous avez atteint un âge suffisant pour que Neptune ait progressé, disons, de 2 degrés. Eh bien, alors, au moment où l'Uranus viendra au Neptune progresser, il ouvrira la porte du Neptune progressé, qui lui est encore spécifique d'un organisme de votre nature qui est votre thème progressé, avec le poisson maison progressé. Et alors, à ce moment-là, ce sera le poisson progressé qui bénéficiera comme la maison dans laquelle le Neptune progressé se trouve, qui est probablement la même que la maison radicale. Mais là, la maison progressée du poisson va en prendre son compte. Alors que juste un mois ou deux avant, c'est la maison radicale du poisson. Il ne faut pas confondre l'action d'un transit sur une radicale ne jouera pas directement sur la maison progressée de la planète progressée de cette radicale. C'est une question de hiérarchie absolument à maintenir, des valeurs. Ainsi, par exemple, ne pas prendre le transit d'Uranus sur Neptune comme étant quelque chose. Maintenant, tenez-vous bien. Ne pas prendre le transit d'Uranus sur le Neptune radical comme quelque chose qui va influencer le signe du Verseau radical. Non. Non, non. Non, non. Le transit d'Uranus n'est pas intéressé à exploiter le Neptune à son tour pour le bénéfice de sa maison radicale. Pas du tout. Pas du tout. Cela, indirectement, forcément, mais pas du tout directement. Il est là pour ouvrir les écluses du poisson. Quand il a fait ça, ouvrir les écluses du poisson, peut-il ouvrir les écluses des poissons sans que ça affecte le Verseau? Je vous demande un peu. Tout se tient dans l'intérieur. C'est toujours par le centre de la croix que tout se prend, tout est assimilé. Pouvez-vous affecter une maison astrologique sans que tous les autres ne le soient pas aussi? Voyons, ce n'est pas possible. Mais spécifiquement, le transit d'Uranus ouvrira la porte à Neptune et n'ouvrira pas la porte au Verseau. Ouvrira la porte au poisson, n'ouvrira pas au poisson. Par contre, le transit de Neptune sur l'Uranus ouvrira la porte au Verseau, mais pas au poisson. Je crois que c'est une chose que chacun peut expérimenter, chacun peut comprendre, et que par conséquent, il est très important d'avoir très clair dans ce formidable ensemble qui sont les transits sur les radicales. Alors, si parlant encore de cycle et d'unité de temps par rapport au transit, et je m'en vais tout de suite vous montrer comment les choses se compliquent, sans que pour ça il faille se faire dresser les cheveux sur la tête, et pour montrer que pour que la vie se continue de 24 heures en 24 heures, et que nous puissions répondre présent à l'heure qui passe, et la regarder avec nos yeux de chair dans une horloge, avec le nombre de moyens dont nous disposons tous les 24 heures, pour que cela soit possible, il faut un nombre de cycles extraordinaires, et j'en vous en parle d'un maintenant, c'est le cycle que fait un transit lorsqu'il touche une radicale. Puis le cycle que fait un transit lorsqu'il touche un autre transit. Ainsi, lorsque Mars vient à mon Jupiter, roi du Capricorne, Mars en transit, il ouvre quelque chose, il ouvre à mon Jupiter, il propose à Jupiter, à toute conjonction, a le sens d'une extension d'un astre par l'autre. C'est ça la conjonction. Et on a tout symbole, le simple symbole de la conjonction, qui est un petit cercle et puis une petite barre qui file, montre bien que c'est une ouverture martienne, tout de suite, qui se fait là. C'est une extension. La conjonction, c'est une extension de l'astre, d'un astre par l'autre, de l'astre radical par l'astre transitant, ou de l'astre progressé par l'astre transitant. Ou alors, si c'est une conjonction de deux transits, c'est une extension de la plus grande par la plus petite. Uranus transitant Mars dans le ciel, et deux transitant ensemble dans le ciel dans le même degré, c'est l'extension immédiate d'Uranus à Mars. C'est Uranus est maître des grands cycles, et c'est ce qu'il offre à Mars tout de suite. Une jetée de plus. Si donc Mars transite mon Jupiter 3 du Capricorne, eh bien, théoriquement, je dois considérer que je peux faire de cela, tenez-vous bien, mais ne le faites pas. Ne vous amusez pas à le vérifier, ce n'est pas nécessaire. Je vous le dis en passant. Vous montrer comment la structure des transits est énorme. Lorsque Mars transite en Jupiter radical, supposons que c'est hier à 10 heures du soir, je précise l'heure et que c'est à Paris, je précise même ça, je peux faire un thème de cette conjonction et j'aurai un thème devant mes yeux qui va maintenant pouvoir être spécifiquement le thème de la conjonction Jupiter-Mars. Ça. Jupiter-Mars. Eh bien, à ce moment-là, s'institue un cycle. C'est un cycle de Mars 3 Capricorne revenant à 3 Capricorne. Il est sous l'influence, il a reçu de Jupiter une giclée formidable. Il a reçu une vitaminisation formidable de Jupiter. Il l'emporte maintenant dans son cycle. Jusqu'à la prochaine giclée de Jupiter qu'il aura lorsque 2 ans plus tard il y aura. Un transit passant sur un grand astre, lui ouvrant la porte, le reçoit en pleine figure la bouffée d'air frais qui sort des réservoirs des planètes radicales, et je vous prie de croire que cette espèce de geôlier qui s'appelle le libérateur, lui-même se trouve richement honoré par ce qui est arrivé, et qu'il en est très fier, et qu'il continue son cycle en se sentant plein de cet événement. Donc chaque fois que vos petits arts dans les entre eux, elle passe sur un grand astre, votre tête élue ouvre la porte, système radical, votre petit as a pris ça de plus d'importance, c'est-à-dire qu'il a pris quelque chose du grand as et qu'il le transporte maintenant dans la totalité du cycle jusqu'à ce qu'il revienne de nouveau en prendre un nouveau grand as. Voilà, ceci n'est pas du tout quelque chose pour perdre votre temps à fouiller ça en soi. Il y a trop de choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus urgentes à mettre au clair. Je le dis simplement en passant. Sur ce, je finis l'analyse des transits. Est-ce que, avant de passer aux oppositions, il y aurait une question sur ce que je viens de dire ou n'importe quoi, ce que j'ai dit de toute façon?
Comment?
Oh, oui.
Pour le Neptune.
Pour le Neptune rétrograde.
Envie d'Uranus sur un.
Ah, ça c'est une question considérable, très subtile. Le transit d'une planète directe sur une planète rétrograde à la maison. Oui.
Et qui reste rétrograde, je
oui. Oui. Oui, ma chère enfant, je sais ça. Je sais ça très bien. Écoutez, je veux faire de ça. Et qu'ils l'ont dompté, qu'ils l'ont capté, qu'ils se sont battus avec, qu'ils l'ont apprivoisé, et que par conséquent les dompteurs se sont fait des muscles, se sont fait des yeux, se sont fait des qualités, des souplesses, des exercices qu'ils n'auraient pas eu sans lui. Voilà. Mais ceci dit, plutôt dans le thème radical, a une signification spéciale dans l'incarnation. Le mien, c'est un Pluton de 4. Et il entend toujours où qu'il soit. Il est monté en 7, dans la Vierge, chez moi. Eh bien, je l'ai vu donc passer en 5, je l'ai vu passer en 6. Et quand je vois l'argument qu'il présente, il présente un argument naturellement un peu différent suivant la planète qu'il contacte. Forcément, il faut que cette planète comprenne son argument. Alors, il est infiniment plastique et il moule son argument sur la nature de la planète en cause. Il s'agit de la séduire à tout prix. Et il sera caméléonesque. Il se moulera sur la planète et lui parlera une langue qu'il ne comprend pas. Mais il le fait toujours avec derrière la tête que sa position fondamentale de quatrième maison signifie. C'est-à-dire, c'est une hypothèque fondamentale que j'ai sur moi, la quatrième maison. Dans un sens très profond de ma croix, du pied de ma croix, j'ai une hypothèque fondamentale. Et c'est toujours au nom de cette hypothèque qui travaille en 5, travaille en 6, qui travaille en 7. C'est toujours, il va servir à une planète de 7 quelque chose qui vient de l'hypothèque de 4. Il la porte avec lui, c'est un huissier de banque qui porte son portefeuille, n'est-ce pas, et qui va d'une maison à l'autre avec. Et il a une fameuse hypothèque, et vous êtes en train de vous demander si vous êtes une planète de 8e maison, oh, pourvu que l'huissier ne vienne pas me rappeler cette hypothèque, n'est-ce pas. Ben, il n'est pas encore là, ou ce sera dans quelques années. Quand il viendra, ça sera une hypothèque fondamentalement de quatrième maison. Il la présentera différemment s'il touche à Saturne, bien entendu, s'il touche à Vénus, par exemple, ou à Mars. Mais quand on va chercher, si on veut être subtil et qu'on va chercher, qu'on suit toute la motivation secrète dans l'individu qui a fait commettre un certain acte, décider une certaine chose, suivre un certain raisonnement, on verra que sourdement, c'était sa politique de maison radicale. Alors, ce qui est vrai de lui est nécessairement vrai de tous les astres. Mon Jupiter est un Jupiter d'onze.
où que soit sa position dans le thème, en transit, c'est toujours un rappel de cette position fondamentale d'onde. Voilà pourquoi l'importance, encore une fois, d'avoir des maisons correctes, de savoir que les astres sont dans ces maisons-là, parce que c'est ça qui va permettre, ainsi, aujourd'hui, les gens qui sont dans cette maison, ici dans cet appartement maintenant, en disant le soleil dans le Verseau. Ouais. Bien, ça veut donc dire qu'Uranus est en train de passer dans la maison opposée. La maison opposée au Verseau, dans le Lion. Ces gens-là ont peut-être leur planète Uranus dans le Capricorne, comme vous, et de le dire ce soir. Donc, pas dans le Verseau, mais avant le Verseau. Eh bien, pour ceux qui ont le soleil dans le Verseau, d'avoir l'Uranus passant dans le Lion, ça signifie une contrepartie, bien entendu, pour commencer, mais ça signifie, il faut voir cette position de lui. Ainsi, chez vous, il est dans le Capricorne à la naissance, il est ensuite dans la naissance, donc le Cancer, c'est la 12, n'est-ce pas, chez vous? Et le Lion, c'est la première. Il passe en première, il est en première, n'est-ce pas? L'Uranus.
Uranus, il est dans le Capricorne.
Vous m'avez dit qu'il est en Capricorne en 6. Alors votre Uranus est Capricorne 10. Oui. Alors, il a été...
Non, pas
10, justement. Pas. Uranus. Votre Uranus Capricorne est en... Ah bon? Alors voilà, ça c'était pas tant. Alors la démonstration va venir tout de suite. Votre Uranus est Capricorne et il est en 3, radical. Il a passé maintenant en 10, Lion. Que vous avez la 3 et Capricorne, la 4 est Verseau. Bon, alors la 10 est Lion et l'Uranus a passé en 10. Bon, sa politique en 10e maison sera une politique qui s'inspire essentiellement de sa position de 3. C'est-à-dire que l'angle d'approche de toute votre vie, son angle d'approche, c'est un angle de 3e maison, et maintenant il fait virer ça et étendre ça à la 10, et il apporte la 3 à la 10. Bon, il apporte la 3 à la 10. Parce que vous avez maintenant, vous êtes en réalité dans la 8e maison de la 3. La 10e maison est la 8e maison de la 3. Par conséquent, étant une 8e maison de la maison où il se trouve, il est en train de faire une métamorphose, une mort et une renaissance de la 10e maison en fonction de la valeur de la 3. C'est ça. C'est ça. Ce qui est vrai d'Uranus, c'est vrai de tous les astres. C'est vrai de tous les astres. Et en effet, pour bien des gens, Uranus transite aujourd'hui la 8e maison de sa position radicale. Pourquoi ? Je crois que ceci est une chose très importante à savoir, non seulement utile, mais enfin quelque chose de fondamental dans l'articulation de la vie du thème. Je crois cette fois-ci que c'est fini, je pense. On s'en remet au même alors. Il va de soi que le transit sur la pointe d'une maison, c'est que le transit demande au propriétaire de cette maison de bien vouloir ajouter un trottoir à sa devanture. Il lui demande, il lui dit, mais vous avez beaucoup plus de... Vous êtes une maison. Je vous offre une perspective pour votre maison. Et Uranus offre une perspective pour ça, bien plus grande encore que Jupiter, bien entendu. Et bien plus grande que les petites planètes, certainement plus grande que ça. C'est une perspective colossale. À moi, en Uranus de 8e maison radicale, lorsqu'il est venu à ma 3e maison,
Eh bien, à la troisième maison, s'étant la huitième de la huitième, il a transformé ma huitième maison. Comme il transforme en ce moment-ci votre troisième maison, qui subit une transformation de sa huitième d'elle-même, n'est-ce pas? De sorte que les choses qui arrivent en 8, en 10 chez vous, sont en réalité des choses de 3 métamorphosées. Des choses de 3. Et moi, c'était des choses de 8 métamorphosées. L'Uranus transitant la maison qui est la huitième de la maison de la mort, la 8, a été la mort de la mort. J'ai cru définitivement à la survie humaine. Donc Uranus est entré et a traversé ma troisième maison et ça m'a amené à la structure saturnienne de l'astrologie. Maison 3 devient l'astrologie quand Uranus passe la 3. Passons maintenant à quoi encore sur ce que je viens de dire sur les transits, sur les radicales.
Vous avez commencé à dire l'opposition Uranus Soleil.
Oui.
Oui. Oui.
Au soleil. Et vous avez un soleil verso. Eh bien, alors prenons maintenant l'opposition. Alors, dans l'analyse de l'opposition, premier de l'analyse de l'opposition. Ça vous étonnera peut-être de le voir ainsi. Lisez tout de suite. Le mot opposition est un mot désastre. Il faudra le sortir du vocabulaire astrologique. Pardon? Non, justement, le mot est désastre. Le mot est désastre. Il faudra le sortir de ce vocabulaire médiéval d'astrologie. Parce qu'en somme, le verso n'est pas opposition lion. Le bélier n'est pas opposition cancer, et je veux dire balance, et le capricorne n'est pas opposition cancer. Le monde n'est pas en opposition avec la famille, c'est ridicule ces choses-là. Alors ça lie tout de suite l'idée de guerre, l'opposition amène l'idée de collision et de lutte, et par conséquent de l'écrasement de l'un par l'autre. C'est tout faux. Vous voyez que nous avons eu une longue période de l'histoire de l'Europe très barbare, très brutale, où les batailles, les collisions, les massacres ont rempli de leur bruit l'histoire des hommes. C'est ce qu'on lit surtout dans les livres d'histoire. Eh bien, justement, alors les astrologues prenaient l'opposition dans le sens précisément de chambardement. Et ils avaient ça dans l'âme. Rendez bien que les formules astrologiques ont été elles-mêmes des projections psychologiques de leur époque. Évidemment. Et l'opposition, donc, en réalité, c'est le complémentarisme. Et puisque c'est le complémentarisme, ça signifie la proposition d'un mariage. L'opposition propose un mariage de deux valeurs. Ah, la conjonction, ils sont déjà mariés, c'est l'affaire est faite, n'est-ce pas? Dans la conjonction, il faut exploiter le mariage lui-même. Mais maintenant, il s'agit de créer un mariage. Ah, c'est le départ de la création d'un mariage. Car il s'agit d'unir deux astres qui sont placés de telle façon qu'ils ne pourraient pas être plus loin l'un de l'autre qu'ils ne sont. C'est ça la beauté de l'opposition. Ils ne peuvent pas être plus loin l'un de l'autre qu'ils ne sont. À 180 degrés l'un de l'autre, la nature ne leur offre pas la possibilité d'être plus éloigné. La notion d'éloignement me plaît beaucoup plus que la notion d'opposition. C'est un éloignement. Et il s'agit maintenant de les unir. Et ça va s'unir tout naturellement par cycle. Il n'y a pas d'autre moyen d'assurer l'union de deux astres en opposition. L'un va faire ses cycles pluriels, l'autre va faire ses cycles, et lentement les cycles des uns des autres vont entrer les uns dans les autres. Et c'est de nouveau tout le grand mystère de la balance
Et car dans l'opposition, c'est là particulièrement que les vertus spécifiques de la balance vont jouer. Puisque vous aurez une opposition d'un as qui sera en 7 avec un as qui sera en 1, et nous voyons très bien la gravité qu'il y a. Si vous avez un Uranus en 7, opposition au Soleil en 1, ou un Soleil ou un Uranus en 1, opposition au Soleil en 7, là, sur ce plateau de la balance, ça donne à faire, n'est-ce pas ? Toujours est-il que c'est critique, que c'est une combinaison qui ne se fait pas du jour au lendemain, que ça va demander la vie, que ça va développer la vie d'une façon formidable. Ça va littéralement le transformer, puisque chaque mariage de deux choses crée une entité nouvelle. Et que la balance a cette vertu suprême de produire des enfants. Et que le devenir se fait précisément à la pointe du fléau de la balance. Alors, quand dans les oppositions vous avez des oppositions, vous savez que la proposition, le programme de la vie, c'est d'arriver à les combiner. La combinaison des oppositions. Bah, regardez, il y a la distinction à faire entre dualité et opposition. La nuit et le jour. Je tape cette rappelée des oppositions. En réalité, c'est une dualité. Puisqu'après tout, c'est toujours les mêmes éléments en cause, c'est le plus ou moins de lumière. On dit chaud et froid. Dualité, c'est pas une opposition, puisque c'est toujours la température. Une variante de température fait un plus et un moins. Mais c'est une distinction, c'est une opposition. C'est une opposition, mais alors, le vrai mot, c'est une dualité, c'est une distinction. Il n'y a pas de distinction sans dualité. Voilà. Donc, c'est la complémentarité. Et puis, c'est la proposition du mariage des deux forces en présence. Moi, j'ai une opposition formidable qui est Mars-Jupiter, en maison et en signe opposé. Eh bien, le grand problème, c'est de les unir. C'est que Jupiter se serve de Mars et que Mars se serve de Jupiter. La grandeur de l'histoire, c'est que quand Mars se sert de Jupiter, ça fait des enfants magnifiques. Hein? C'est ça. Ça fait des enfants magnifiques, pas d'amis. Parce qu'il faut toujours chercher la progéniture des planètes en état en proposition de mariage. Et la synthèse, c'est l'enfant qui va venir d'un Jupiter en opposition à Mars. Quand le Mars se dit, ah Jupiter, je te reconnais comme mon partenaire. Quand il a découvert finalement que Jupiter, c'est son partenaire. Ça se traduit pratiquement dans ce fait que, n'oublions jamais que le temps, c'est la clé de tout ça, c'est la clé des cycles de ces temps, que donc le thème représente des temps imbriqués dans des temps, c'est-à-dire des transports d'énergie, et que ces transports d'énergie se calculent à l'heure. Ça prend tant de jours pour que la Lune passe dans un autre. Il n'y a rien à faire, on ne pourra pas, le sang qui a un coup de pied, elle va faire aller plus vite. On ne pourra pas anticiper son moment. On ne peut pas faire aller Mars plus vite, on ne peut pas le ralentir non plus. C'est comme ça. Et voilà pourquoi on doit se dire, ça ne peut pas arriver ce mois-ci, mais ça arrivera sûrement le mois prochain. Voilà. Et alors, si l'on pouvait savoir exactement ce que chaque as a dans son mouvement de signification et de politique propre, on pourrait prédire infailliblement ce qui va se passer. On n'est pas assez saturnien pour arriver à ça. On n'en sait pas assez. Alors, dans l'opposition, par les conjonctions, ce n'était pas tant dans un sens, la simultanéité du mouvement, le temps, commence leur course ensemble, à une vitesse différente, mais la course est commencée toujours ensemble. Hein, on part. Dans l'opposition, il y en a un qui part et l'autre part. C'est toujours ou l'un ou l'autre. Pour ce qui est des positions radicales, c'est toujours ou l'un ou l'autre. Et là, par exemple, dans une opposition Mars-Terre, c'est très intéressant de voir que par ces cycles, le Mars est en train de se rapprocher, de s'unir à Jupiter beaucoup plus vite que Jupiter n'est prêt à s'unir à Mars. Jupiter sait très bien qu'il veut s'unir à Mars et qu'il le doit, et que c'est dans l'ordre. Il doit faire son rôle, Jupiter. Hein? Oui, oui. Il faut aussi. Mais il dit, c'est toi le plus petit qui doit faire le plus de travail. Dans ce mariage, c'est toi qui courra le plus souvent autour de toi-même, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu aies compris ma grandeur, mon cadre. Et voilà. Quand je suis martien, quand j'étais martien, et l'impulsion du thème radical, et c'est ça qui est intéressant. L'impulsion du thème radical, il est là. Essaie d'agir indépendamment de Jupiter, ce qui veut dire d'avoir un temps d'action qui n'est pas le temps d'action jupitérien. Voilà ce qui s'appelle l'opposition. C'est d'avoir son horaire à soi et de démarrer maintenant quand l'autre démarre à un autre moment. Pas arriver à les faire démarrer ensemble. Alors, le tout, c'est de tâcher de faire démarrer mon Mars en même temps que mon Jupiter. Ou mon Jupiter en même temps que mon Mars. Le grand truc, c'est ça, au fond. Vous comprenez ? C'est de synchroniser leur départ dans leur cycle. Alors, je constate que jamais maintenant que la première impulsion, c'est le Mars radical. Et tout de suite, les progressions corrigent ça un peu, et surtout, les transits corrigent. Et l'état des transits du moment, vont corriger cela de manière que j'exprime cette opposition, cette maladresse de l'opposition, graduellement transformée dans un espèce de cheminement mental intérieur de ma conscience qui aboutit à quelque chose qui est une assez belle combinaison des deux aujourd'hui. Ça m'a pris du temps. Dans l'opposition, il faut prendre la plus petite des deux planètes, celle qui oppose l'autre, se rappeler que sa politique est celle de sa position radicale, et puis procéder tout de suite par ces cycles à elle. Car forcément, il viendra à l'autre planète dans la moitié de son cycle. Et c'est en prenant par exemple l'opposition Jupiter-Mars, qui est assez fréquente, que vous apprendrez beaucoup de choses sur votre Mars, comme sur votre Jupiter, en les isolant du reste du thème et en voyant tous les deux ans quand Jupiter, quand Mars arrive à Jupiter, quand Mars fait carré Jupiter, quand Mars revient à sa position radicale. Et comme ça, de deux ans, vous apprendrez sur votre Mars des choses étonnantes. Et le plus vous ferez ça, plus vous vous saturnisez. Vous êtes en train de vous planquer un fameux squelette, vous donner un fameux squelette. Parce que alors, l'image en reste, et les images qui vous restent, ben, c'est la force de caractère qui fait que vous arbitrez vos oppositions d'autant plus sûrement et plus rapidement dans la vie. J'avais pu faire ça il y a 40 ans, eh bien, je vous assure que les bénéfices auraient été extraordinaires. Ce n'est évidemment pas destiné à ça. Je ne veux pas rentrer dans les qualifications de certaines oppositions habituelles, telles que la Lune opposition Mercure, ni celle de Vénus opposition Mars. Tout le monde connaît ça. Tout le monde se doute de ce que c'est d'ailleurs, mais tout le monde va le connaître à peu près ici présent. Mais je veux prendre quand même une opposition alors tout à fait autre, c'est l'opposition de Pluton à un as. Alors là, il ne s'agit pas de mariage, pas du tout. Car il ne s'agit pas d'incorporer Pluton au thème. Donc, à lui donner, je veux dire, tu entres dans le thème pour y croire. Les autres astres s'unissent à l'opposition et pour croître et pour faire un enfant. pour faire un enfant. Et nul as n'a le droit d'entrer dans votre thème qui n'est pas progénitable, qui n'est pas capable de progéniter. Nul as n'a le droit d'entrer dans votre thème qui n'est pas capable de progéniter. Et voilà pour, entre autres choses, les étoiles fixes n'ont rien à faire dans le thème. Incapable de progéniture. Voilà pourquoi certaines planètes actuelles du système solaire n'ont aucun droit de domicile dans le thème, parce qu'ils sont incapables de progéniture. C'est très ésotérique, vous vous en rendez compte tout de suite à quel point c'est ésotérique. Tous les astres qui sont dans le thème astrologique, du système solaire, ils sont, parce qu'ils sont tous proliférateurs. Ils engendrent des enfants lorsqu'ils sont mariés à d'autres enfants. Voilà. Ils engendrent des enfants. Or, vous ne pouvez pas engendrer un enfant avec ton. Car si vous voudriez l'engendrer, vous faites un monstre. Et il y a des espèces de mariages, évidemment, de ce genre, mais ça donne toujours un monstre. Donc l'idée, c'est d'écarter le conjoint qui représente une telle maladie que s'il y avait un enfant, l'enfant serait un désastre pour vous. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous avez l'opposition avec Pluton, l'idée ici, c'est de dire que la planète, ainsi, au cas, cher monsieur, vous avez Saturne en opposition Pluton, et il l'a dans des maisons extrêmement intéressantes, qui ne sont heureusement pas des maisons personnelles. Il a le Saturne en 10 et maître de 10, et il a le Pluton en Cancer en 4. Donc là, c'est littéralement le sens de la vie elle-même qui est en cause. Ce n'est pas tel et tel comportement. Ceci, la question du comportement qui joue ensemble là-dedans, c'est par la parce qu'il y a des planètes dans le carré de l'ascendant à la quatrième, mais qui aussi sont des planètes dans le carré avec le Saturne. Bon. Non, mais le vrai problème, c'est un problème 10-4. En grâce, en raison. Or, Pluton, c'est relativement parlant ici, le prince du chaos, il entend maintenir les choses à l'état de poussière, pour lui diviser ses régnés, et unir, c'est se perdre, c'est mourir. Mourir est le mot. Pour lui, l'union fait sa mort. Par conséquent, je maintiens la division, parce que c'est mon monde. Alors, Vénus, qui est la grande principe de soudure, de cohésion, vous imaginez ce sexe, si Vénus de position Pluton, qu'est-ce qu'il y a là? Et c'est la chose très intéressante, c'est que la Vénus du thème, avant même d'avoir jamais fait l'expérience de ce Pluton, je veux dire, parce qu'il y a des lunaisons qui assureront toujours de mois en mois un brin d'extérieur, mais dans l'ensemble, Vénus, tant d'instinct, il y a quelque chose qu'il ne faut pas toucher. C'est qu'il ne faut pas aller facilement dans la maison où se trouve ce Pluton. Si on est Vénus en opposition de lui. Donc la planète opposition de Pluton a une tactique tout à fait à elle d'aborder les maisons. Et c'est passionnant à suivre. C'est tellement passionnant que le terme n'est plus rien qu'une falaise à côté.
Vénus opposition.
Ah oui, vous êtes de ceux de 1901-1902 qui l'ont dans le Sagittaire en opposition à Pluton Gémeaux. Eh bien oui, monsieur. Eh bien, c'est la même histoire. C'est le vôtre, c'est votre cas, mais c'est tout à fait la même histoire. Et ça caractérise le climat psychique des gens qui sont nés alors, c'est-à-dire être de la vie qu'ils ont eue comme adultes. C'est une caractéristique essentielle de ceux qui ont eu l'Uranus en face de Pluton, alors que vous avez eu l'Uranus en face de Neptune. Il a fallu quelques années pour que tout d'un coup Uranus se trouve en face de Neptune et plus en face de Pluton. L'Uranus a le plus vite que les deux autres. Et que vous pouvez faire une histoire passionnante de l'humanité en prenant les trois cycles Le cycle d'Uranus, 84 ans, de Neptune, 164, de Pluton, 249. Alors, vous voyez, virer sur soi en 84 ans Uranus, sur soi Neptune en 164, et ils ont fait deux, chacun, plus qu'un cycle, un plus qu'un cycle, avant d'arriver à faire le cycle que fait Pluton en 249 ans. Rien que ces trois, l'un sur l'autre, c'est un monde merveilleux à explorer au point de vue historique. Merveilleux à explorer. Oui, alors que disiez-vous, monsieur? Monsieur Preuss, n'est-ce pas? Monsieur Glowacki. Bon. Eh bien, que pensez-vous vous-même de cette opposition? Vous en avez certainement souffert, puisque vous avez vu le transit d'Uranus sur votre Pluton, c'est déjà fait dans les Gémeaux, et ça s'est fait déjà autour de la fin de la guerre, au lendemain de la guerre, en 47, 48, peut-être, ou plus tard.
Et elle va donner des catastrophes pour moi. Les gens étaient axes, vous-même, 10, 4.
Vous aviez l'Uranus en 10 et le Pluton en 4. Oui. Ben, comme vous dites, autour de vous, la quatrième maison est tout ce qu'on a de plus autour de soi. C'est-à-dire un Pluton de 4. Alors, le Pluton de 4 est Gémeaux, l'Uranus commande la maison du Verseau qui, alors, dans la vôtre cas, c'était la. L'ascendant était Verseau.
Oui.
Alors vous êtes né avec une planète, un signe intercepté pour avoir le Verseau pour l'ascendant et le Sagittaire pour 10. Ça vous donne 60 degrés entre l'ascendant et le milieu du ciel, par là autour. Enfin, l'ascendant. Alors, le Gémeau commande quoi chez vous? La carte. Ouais, enfin, il y avait là quelque chose, il y avait l'ascendant qui allait chercher à trouver dans la 10 quelque chose pour le protéger de la 4. Totalement. La 10 vous a constamment protégé de votre 4. Hein? L'un dans l'autre.
La protection est absolument
sûre. Ah oui, transcendantale. Vous souhaitez bien de souligner ça, transcendantale.
Mais un astrologue,
dans cette période, m'a dit, mais
comment faites-vous pour marcher sur Terre?
Quand
on ne peut pas marcher sur Terre, on peut marcher sur la mer.
Ah, c'est ça. En train suspendu. C'est ça. En monorail. Alors, ce Pluton de 4, il devait avoir des aspects, outre l'opposition.
Oui.
Il faut être aussi.
Carré à Mars.
Ah,
rien que ça. C'est carré à Mars, naturellement, la personne. Carré à Mars.
Ah oui, qui était carré à Mars aussi. En Mars de la Vierge. Ah, alors c'est complet. Alors, c'est le Mars de la Vierge. L'Uranus lui dit Mars, tu viens à moi. Pluton lui dit non, tu restes avec moi. N'est-ce pas? Nous restons dans le multiple, dit Pluton. Je te défends de venir faire de faire des synthèses, toi, Mars. Je te défends d'aller t'aligner avec des groupements plus grands que les miens.
Ouais. La maison.
Et interprétait-il ce Pluton comme nous le faisons ici?
Plus matériellement.
Plus matériellement.
Oui, alors, à son point de vue matériel, je vais être annihilé. Par
l'émanation de tout le temps. Oui. Enfin, on s'est bien compris, n'est-ce pas? On s'est bien compris que là, il n'y a pas eu de mariage entre le Pluton et l'Uranus.
Non, mais je pense que ça a été Uranus qui a eu le dernier mot.
Ah, naturellement, il a eu le dernier mot. Mais alors, quelle bataille entre les deux soi-disant partenaires, les deux conjoints, l'un a griffé l'autre dans la figure jusqu'à ce que tâcher de supprimer le conjoint. Voilà, le Pluton cherche à supprimer le conjoint, pas du tout s'allier avec lui. Et l'Uranus, dans la situation, ne peut pas faire autre chose que de se défendre.
Mais oui, mais il le faisait en dehors de moi. Il a pris action dans cette chose. vraiment, j'étais attaqué de tous les côtés.
Oui.
C'est un manière occulte que physique.
Oui.
Bien. J'ai tâché de me subtiliser au possible pour laisser le moins d'impact physique.
Oui.
Point de vue.
Oui.
Paralyser mes actions.
Eh oui.
Alors, peu à peu, ceux qui m'attaquaient
oui.
ont été annihilés.
Oui, c'est ça. Ça. Mais voyez que ce n'est pas vous-même qui avez attaqué, et ce n'est pas en vous-même que ça s'est passé, ça a été fait autour de vous, contre vous.
Oui,
mais vous avez rudement touché, mais bien sûr, parce que tous ceux qui vous ont attaqué étaient partis de vous-même.
Ah oui, oui.
Ah, c'est ça. C'est ça, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu être inconscients de ce qui était votre, la situation. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter ce soir. C'est 11h04.
Et quand c'est un magistère qui ne plaisante pas à l'église, qui en font, qui ont besoin d'apprendre l'ordre. Il est l'ami de l'ordre. Il est tellement l'ami de l'ordre qu'il est un épouvantail pour tous ceux qui n'aiment pas l'ordre. Ça, c'est tout naturellement le rôle de Saturne. Alors, non, un instinct humain de sauvagerie, d'insoumission, d'anarchie, de désordre, le goût de la pagaie et tout ça réuni fait des ennemis de Saturne. Voilà. Mais Saturne a eu une autre très mauvaise réputation, alors celle-là complètement injustifiée, c'est que les astrologues ne connaissant pas certaines des grandes planètes, ni Neptune, ni Uranus, ni Pluton, car enfin, ces astres n'ont été découverts l'un dans l'autre que depuis deux siècles, pas même. Eh bien, mon Dieu, alors surtout, peut-on, ils ont passé à Saturne, faute de mieux. Ils ont accroché sur le compte de Saturne des quantités de méfaits, très réels ceux-là, qui venaient de Pluton. Simplement, tout simplement. On a vu dans Saturne, entre autres choses, l'homme, le bonhomme temps, avec sa faux, qui fauche, eh bien évidemment, la faux qui fauche les prés, c'est pas très rigolo à regarder. Le symbole est pourtant très juste. Il y a des déterminations douloureuses pour l'homme qui ont leur origine rigoureusement dans Saturne, mais celles-là sont alors toutes constructrices. Elles visent à le faire durer en le rendant endurant. Saturne, c'est le grand ingénieur de la non-durance. L'endurance, sa station, si vous voulez, qui permettra de durer, car c'est le maître de la durée. Pourquoi est-il le maître de la durée? C'est ce que nous allons voir dans un instant sous une forme un peu géométrique. Car ici, je crois que trois images géométriques doivent placer une fois pour toutes dans l'esprit la fonction unique et précieuse de Saturne. Il n'est pas un astrologue praticien, il n'est pas aperçu toutes les vertus de Saturne. Sans toujours avoir réussi à trouver en quoi il n'est pas néfaste. Mais ça c'est dû alors à la projection de l'inconscient sauvage, plus ou moins, de l'astrologue lui-même, qui cherche en somme à s'apprivoiser, ou à se faire apprivoiser par l'univers. Or le maître de l'apprivoisement, c'est Saturne. Il nous rend civilisés, et il nous fait concorder les uns avec les autres. Ça ne va pas, tout à fait? Qu'est-ce qui ne va pas, évidemment? Vous avez déjà commencé? Bon, d'accord. Bon. Mettez-vous tous confortables, autant que vous le pouvez. Vous êtes tous confortables. Je vais commencer d'abord par deux ou trois recherches pratiques, concrètes, dans vos thèmes. Dans vos thèmes. Pensez, ceux de vous qui connaissez vos thèmes, qui les possédez, pensez à la maison que commande le Capricorne. La maison du Capricorne. La maison du Capricorne, c'est donc le signe du Capricorne sur une de vos maisons. C'est donc la maison que commande, que régit, que possède Saturne. Et voilà une affaire réglée. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'association. C'est Saturne, un point, c'est tout, qui mène le Capricorne. Et incidemment, il faut absolument rejeter un élément de la tradition moyenâgeuse qui a voulu donner à Saturne aussi la maîtrise du Verseau. Par toute espèce d'argument plus ou moins artificieux et spécieux, donc de mieux, n'ayant pas trouvé Uranus, on a prolongé sur le Verseau la fonction de gérance qui était celle d'Uranus, et alors on l'a fait aller sur Saturne. Ceci, je ne perds pas une minute là-dessus, il va de soi que ça n'existe pas. Toute l'expérience nous prouve définitivement que Uranus a tous les droits et toutes les obligations sur les fonctions du Verseau. Et je reviens maintenant donc au Capricorne. Je veux dire, maintenant que vous savez, vous avez repéré dans votre esprit où est la maison du Capricorne dans votre thème, immédiatement ensuite, repérez où est votre Saturne, c'est-à-dire dans quelle maison lui-même se trouve-t-il. Parce que la position de Saturne dans la maison, quel que soit le signe, quel que soit l'élément, la position de Saturne dans la maison où il se trouve dans votre thème, va déterminer d'une façon extraordinaire la façon dont va jouer le Capricorne. Ça va de soi. Tous ceux qui ont étudié notre astrologie l'ont expérimenté. Et cela va de soi, même indépendamment de tout aspect que ce Saturne peut faire. Toute chose égale d'ailleurs, prenez isolez-moi Saturne dans la maison où il se trouve par rapport à la maison dont il est le maître. Et notamment, cela vous intéressera énormément de constater, si vous pouvez constater, que Saturne peut être fort bien dans la huitième maison qui suit le Capricorne. Ainsi, il est en cancer, dans le signe du cancer, il est donc en opposition avec la maison qu'il commande, Capricorne. S'il est dans le lion, alors il est dans la maison 8, puisque la septième, c'est la maison opposée à la sienne, alors le cancer, maison opposée à la sienne, s'il est dans le lion, il est en huitième maison de sa maison qu'il commande. Vous suivez bien ça. Il est très important pour notre délectation, pour notre intelligence profonde du mystère de notre Saturne particulièrement, et du Capricorne, de savoir la maison où il se trouve, parce que ce qui paraît extraordinaire, il se trouvait dans la huitième maison de la maison qu'il commande, autrement dit ici, ça ne peut être que dans le lion, et c'est mon cas, et il commande chez moi la 12, et je m'en aperçois d'une façon du tonnerre ces dernières semaines, puisque Saturne est entré dans le Capricorne jusqu'au 17e degré, et qu'il est arrivé en pile sur la pointe de ma 12e maison, qui est la sienne. Il dit, moi j'ai Saturne dans le lion, et moi je l'ai donc en 7, et comme la 12e a comme 7e la 6, autrement dit la 12 et la 6 se font pendant, quand il passe en 7, ça veut dire qu'il est dans la 8e de la 12. La huitième de la douze, une fois j'ai fait une analyse à Loggelbach ou je ne sais où, en classe de cette combinaison des maisons non, qui ne sont pas des maisons dérivées, c'est tout à fait autre chose encore, mais où l'on passe de la huitième de la huit, la sixième de la un et ainsi de suite. Eh bien maintenant, pensez à la huitième du Capricorne, qui nécessairement doit être 12, Lion, et vous allez constater que là où se trouve Saturne, il va avoir une fonction propre à une huitième maison de la sienne. C'est-à-dire que Saturne, dans la huitième maison du Capricorne, prenant le Capricorne maintenant comme un ascendant, que Saturne, dans la huitième maison de cet ascendant, va avoir un effet extraordinaire sur sa propre maison, le Capricorne, un effet particulier, un effet qui n'est pas celui qu'il aurait s'il avait été dans la maison opposée, ou en maison 4, ou en maison 5, ou en maison 6 de la sienne, c'est une action de métamorphose. Car Saturne, dans la maison 8 de la sienne, dit que quelque chose va mourir et renaître. Comme toute huitième maison signifie ça. C'est une mort et une renaissance. Et j'en fais précisément l'expérience depuis environ un mois. À telle enseigne que j'ai beaucoup hésité de pouvoir venir à Paris en ce moment-ci. Et qu'à telle enseigne que par moment à Paris, je suis obligé de rester extrêmement immobile parce que je sens ce roulement de tambour de basse. Ça signifie ce Saturne qui, revenant à sa maison radicale, partant précisément de la maison d'où il est en 8, n'est-ce pas, où il est dans sa 8e, dans la 7e chez moi, il est en train de faire des choses qu'il n'aurait jamais fait s'il avait été dans une autre maison que la huit de la sienne. Voilà. Pensez à ça, parce que je connais certainement d'autres ici qui peuvent avoir le Saturne dans le lion. Et alors, c'est une pensée qui m'est venue en préparant ce petit travail d'aujourd'hui, comme une chose qui donne encore plus de saveur et de précision à l'analyse d'un thème, et particulièrement du sien. Après tout, votre thème, c'est un temple dans lequel vous entrez en vous délassant les souliers pour aller mieux voir, faire vivre les révélations de ce temple et en sortir en quelque sorte éclairé, illuminé et fortifié, sinon consolé, mais fortifié certainement. Voilà pour le départ de cette notion-là. Or, l'action de Saturne, non. L'action de Saturne est une action exactement compensatoire de l'action de Jupiter. L'une, Jupiter parle d'expansion, parle de poussée, parle donc, si l'on veut, en tous les termes, son synonyme qui indiquerait la notion et l'effet de poussée, gonflement, plénitude, je dirais même alors enflure, tout ça. Mais c'est surtout la puissance de la sève, c'est la puissance de la croissance, c'est vraiment l'amplitude, c'est vraiment l'expansion, c'est vraiment l'expansion. Jupiter n'est pas intéressé du tout, ce n'est pas sa fonction, il ne peut pas être intéressé lui-même à la conception de l'économie de l'individu. D'un système économique solidement posé, dont toutes les parties sont liées à toutes les parties, de manière à ce que tout se tienne. La fonction jupitérienne n'est pas de faire que tout se tienne. C'est la fonction spécifique et unique de Saturne d'assurer que tout se tienne. Que tout doit se tenir. J'en viendrai à un petit dessin, un petit schéma explicatif de ça dans un instant. Il faut que tout se tienne. Alors, le rôle de Saturne, c'est un rôle de températion. Chaque fois que vous sentez l'influence de votre Saturne, chaque fois que vous le sentez, que quelquefois vous grincez des dents et que vous froncez le sourcil, car il est le maître du froncement de sourcil. Vous voyez, le sourcil, le front, c'est le bélier. Le bélier n'a qu'une idée, c'est d'aller de l'avant, de sortir de l'économie de l'individu, d'aller voir un peu l'économie des autres, n'est-ce pas? C'est son devoir, c'est son droit. Mais pour être sûr qu'il n'en abuse pas et qu'il ne fiche pas tout l'ensemble de l'édifice en l'air, il y a Saturne. Et vous voyez que le bélier, c'est en quadrature du Capricorne, qu'il est toujours obligé, le bélier, d'être le soliste qui regarde là-haut le chef d'orchestre pour ne jamais faire une fausse note, pour ne pas partir avant la minute ou après. Et quand il fait un couac, eh bien, Saturne tape sur la table avec son bâton. Alors, forcément, le soliste fronce le sourcil. Nous sommes tous des solistes quand nous sommes un bélier, ayant à vite froncer le sourcil, si nous ne sommes pas très sûrs que nous sommes bien restés centrés. La fonction de Saturne, c'est de vous centrer. Donc, il est exactement salutaire au premier chef. Que feriez-vous de vous-même? Qu'arriverait-il? Il n'y avait pas le moyen de perpétuellement vous assurer de là où est votre centration, votre point de ralliement commun à tous les éléments de votre nature. Ce point commun à tous vos éléments. Évidemment, nous sommes tous humains et nous sommes tous en production, en génération. Et par conséquent, il y a des moments où nous nous moquons éperdument de l'ensemble de notre nature. nous nous embloquons éperdument dans son nom de nature. Nous en avons tout à coup une partie de notre nature qui nous intéresse prodigieusement. On veut en faire un état, on ne demande qu'à l'exploiter à fond. Et quand tout à coup d'autres amis, d'autres gens, la famille, que sais-je, et quelque chose en vous-même, parce qu'on n'est quand même pas bête, se dit, eh bien, alors est-ce côté-là de toi? Oh, fiche-moi la paix avec ça en ce moment-ci, qu'il m'assomme ce côté-là. Oh, non, 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 j'en ai assez, masse. Je me suis ennuyé avec trop longtemps maintenant. Voilà, j'ai là un bon steak à grignoter. Je l'ai attendu toute ma vie, je mords dedans. N'est-ce pas, c'est ça? Et alors, la première réaction, c'est d'oublier l'ensemble. Arrive Saturne à ce moment, et qui vous dit, tu as assez mangé de ce steak. Comment j'en ai assez mangé? Oui, eh bien, si tu ne te peux, si on ne te peut pas obtenir de toi que par l'intérieur de toi, tu t'arrêtes, que l'appétit tombe, eh bien, alors on va t'enlever le plat. C'est l'un des deux. Ce sera une soustraction par l'intérieur ou une soustraction par l'extérieur. Il est indéniable que Saturne est un maître en soustraction. Et certainement pas un maître en addition. Et mettre en addition, c'est Jupiter. Et c'est toujours le grand principe de la, d'ailleurs de la multiplication et de la division, car ici il s'agit de multiplication et de division, beaucoup plus d'addition et de soustraction. Mars additionne, oui, il additionne, mais Jupiter multiplie, mais Saturne, il divise. Or, la division n'était-ce pas une forme plus complexe encore, des partages, par conséquent, de la soustraction. Il soustrait. Et voilà pourquoi nous voyons certains deuils. Tout ceci, c'est l'expérience courante de la pratique astrologique, donc de la démonstration des lois qui sont des lois de géométrie formelle, comme vous allez voir tout à l'heure. Il nous arrive d'avoir des deuils, des pertes douloureuses, très douloureuses, d'êtres chers, notamment et surtout de la parenté immédiate, père et mère, par exemple, qui sont dus précisément à une soustraction de Saturne. Tu as assez mangé de ça, tu en as eu maintenant ton plein, il faut changer de régime, on t'enlève les moyens de manger davantage de ce plat, parce que toi, toi-même, tu n'as pas la perspective sur ton économie en profondeur, en durée. Tu ne sais pas ton volume réel, ta capacité réelle. C'est Saturne qui tient l'horloge, il a dit maintenant assez de ceci. Il n'enlèvera jamais une personne à une autre avant son temps. Il vous aidera à garder une personne dans votre vie jusqu'au jour où lui sera le maître de la soustraction. Alors, c'est lui qui te prend. Et par conséquent, ne pas penser toujours, maintenant que vous connaissez les catastrophes organisées que nous fait Pluton, ne pas toujours ramener à lui les effets, les conséquences de certains gestes qui sont des soustractions saturniennes. Saturne est le maître des quantas de durée, des quantas d'expérience, des quantas de conscience, des quantas de tout. De ce qui est vital, de ce qui est vivant, de ce qui est donc fluide. C'est lui qui assure les proportions de tous ces quantas. Il a des raisons pour chacun de nous de nous en donner tant et pas davantage, et surtout, il a surtout à lutter avec les excès dans la nature. Les excès dans la nature humaine, nous y viendrons tout à l'heure en pensant à la Lune. Les excès dans la nature humaine. C'est lui qui doit les corriger. Quand il n'y a pas d'excès dans la nature humaine, ben, mon Dieu, on ne s'aperçoit presque pas de Saturne. Ça se passe, ça va sur des roulettes. Saturne. Saturne. Lumière qui est là, j'ai mis une note et puis je ne l'ai plus voir. Ah oui, ça va, ça va, ça va. L'action de cette. Et tout de suite, vous comprenez pourquoi, lorsqu'il fait entendre sa, révèle sa puissance, spontanément, vous faites un acte de réflexion. Et la réflexion, c'est déjà le contraire de l'expansion. La réflexion n'est pas une dilection. La réflexion n'est pas, pour le moyen des hommes, un plaisir jouissant. Oh non. La réflexion, c'est un effort. Or, la réflexion est le signe qu'il y a en nous quelque chose qui travaille en concentration. Et il s'est révélé quelque part au fond de nous un centre et que nous cherchons à accorder la position sur la courbe de l'existence, sur la spirale d'existence où nous sommes à ce moment-là, que nous sommes en train de découvrir de nouveau la présence de ce centre et que nous nous efforçons de savoir comment graviter autour de lui, donc de nous y rallier. Dès que cette sensation est en présence, c'est Saturne qui est en jeu. Donc la réflexion et Saturne sont des choses qui vont absolument ensemble. Et sans Saturne, la réflexion est impossible.